Aïchatou Touré, bonjour.
Bonjour Ayouba.
Dites-nous quel genre d'activité organisez-vous pour les habitants de Gatineau?
Depuis la création, on organise plusieurs activités, que ce soit des activités culturelles, sportives, éducatives, des conférences, des cafés citoyens. On a vraiment une variété d'activités pour essayer de toucher le plus de monde possible, donc vraiment pour que tout le monde y ait son compte. Depuis la création, principalement, les activités se concentraient sur le mois de l'histoire des Noirs. Donc, on collabore avec la ville de Gatineau chaque année pour organiser le mois de l'histoire des Noirs, entre autres, coordonner le lancement, la soirée du lancement et la grande journée festive qui a chaque année durant le mois de l'histoire des Noirs ici dans la ville de Gatineau. Mais aussi, on collabore avec d'autres organisations pour justement mettre en place des activités durant le mois de l'histoire des Noirs pour pouvoir célébrer la culture, la richesse dont regorgent nos différents organisations, mais notre communauté aussi. Par exemple, à titre d'exemple d'activités que nous avons eues l'année dernière à aujourd'hui, on a organisé une discussion, un débat avec les candidats pour les élections fédérales pour discuter des enjeux qui touchent les citoyens et citoyennes issus de la communauté noire de l'Outaouais. On fait des remises de reconnaissance, donc habituellement, lorsqu'il y a une thématique pour le mois de l'histoire des Noirs, on essaye justement de reconnaître certaines personnes qui se sont distinguées dans les domaines, donc pour pouvoir justement souligner l'apport de ces membres de la communauté ici à Gatineau. On organise souvent des 5 à 7 de réseautage, d'activités pour pouvoir rassembler les gens de la communauté, pour pouvoir s'assurer que les gens ont justement des forums de rencontres pour pouvoir échanger, discuter de projets qui pourraient être communs.
Conseil regroupe combien d'associations à Gatineau?
En ce moment, on a une dizaine d'organisations qui sont autour de la table ou membres de l'organisme du Conseil de la communauté noire de Gatineau.
L'un de vos objectifs, tel que vous l'avez annoncé sur votre site internet, est de créer un pont entre les communautés. Comment accomplissez-vous cette tâche afin de faciliter le vivre ensemble?
L'une des choses qu'on fait, c'est vraiment de participer à la table de concertation du vivre ensemble et de l'immigration de la ville de Gatineau. À travers cette table, c'est sûr qu'on a établi des bons liens solides avec plusieurs organisations qui touchent aussi la communauté noire, qui ne sont pas nécessairement uniquement pour la communauté noire, mais qui touchent des segments de la communauté noire. Donc, ça nous permet déjà de collaborer sur certains projets et de pouvoir partager de l'information. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment essayer de connaître les autres organisations. Dernièrement, on a eu une rencontre avec certaines organisations pays, associations pays de Gatineau. L'idée, c'est vraiment de se connaître, de savoir qu'est-ce que les organisations font, comment pouvoir travailler ensemble, comment pouvoir se soutenir et partager de l'information. Donc, je pense que c'est important, justement, nous, à notre niveau, lorsqu'on a de l'information pour des subventions, des activités ou quelques informations qui pourraient être utiles pour les autres organisations. L'idée, c'est de le partager et de le partager à travers notre site web, de le partager à travers nos différents médias sociaux. Ce pont qu'on essaye de faire pour pouvoir aussi permettre aux organisations d'être ensemble, de se connaître entre elles aussi pour pouvoir travailler ensemble dans l'organisation de différents projets.
Vous pouvez donc être considéré comme une banque qui réunit des associations. Au regard des témoignages qui vous parviennent, pensez-vous que le vivre ensemble est menacé dans la région?
Oui, en effet, on aime bien se dire la banque de données. Et d'ailleurs, justement, notre site web qu'on est en train de retravailler en ce moment, l'idée, c'est d'avoir non seulement un répertoire là-dessus, donc pouvoir partager l'information des différentes ressources qui existent ici dans la région, des commerces, des expertises, des associations, donc les organisations, d'avoir ça sur notre site web. On est tous gagnants quand l'information circule bien dans nos communautés. Je pense que le vivre ensemble dans la région de Gatineau se porte bien, mais on travaille dessus justement pour que ça continue à se porter bien, continue à se porter même mieux. Donc, on travaille de manière proactive. Quand on regarde la vie à Gatineau comparée à des grandes métropoles, on ne va pas dire que tout est parfait. Il y a des cas de racisme, il y a des problèmes de racisme dans notre région aussi, comme partout. Mais on peut dire qu'à Gatineau, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans les dernières années pour justement travailler en amont pour pouvoir remédier à certaines situations. Donc, la ville de Gatineau est l'une des premières, d'ailleurs, qui s'était dotée d'une politique de la diversité il y a quelques années. C'est l'une des villes qui travaille en ce moment, qui a cette table de concertation, là où on a un lien direct quand même avec le maire de la ville. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de démarches qui sont faites, mais l'idée, c'est vraiment de continuer à garder ça comme ça l'est, mais de pouvoir dénoncer rapidement lorsqu'il y a des problèmes et de travailler rapidement dessus. Donc, quand on a plusieurs acteurs qui sont autour de la table, qui peuvent intervenir sous différents angles, je pense que c'est un atout que nous, on a ici à la ville de Gatineau. Certes, la population noire à Gatineau est grandissante de manière exponentielle dans les dernières années, mais on considère qu'on est quand même une population pas très grande comparée à d'autres grandes métropoles. Et ça fait que il y a un mélange de la diversité, c'est très intéressant. Donc, lorsqu'on va à des activités de certaines communautés, on rencontre toutes les autres communautés là, que ce soit la communauté québécoise ou d'autres communautés asiatiques, américaines, africaines. Donc, c'est ce mélange qui permet aussi d'avoir une réunion des cultures. Donc, c'est très important et ça nous permet, à notre niveau, de continuer à avoir un beau vivre ensemble.
Vous venez de dire que c'est vrai qu'il y a du racisme à Gatineau, mais est-ce que vous pensez que le racisme anti-noir est présent dans la région de l'Outaouais?
Je pense que le racisme anti-noir, il y en a vraiment partout. Donc, nul n'est à l'abri du racisme anti-noir, que ce soit à Gatineau, que ce soit dans d'autres villes. C'est sûr que comparé à d'autres grandes, encore une fois, j'aime bien comparer à d'autres grandes métropoles, mais c'est sûr qu'il est moins prononcé ici. Mais il y a des cas. Il y a des cas, que ce soit dans les milieux de travail, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les commerces. Il y a des gens qui font face à des situations de racisme. Et une des formes de racisme qui est très souvent rencontrée, c'est les micro-agressions. Donc, les micro-agressions sont très fréquent, que ce soit encore une fois dans les milieux de travail ou n'importe où. Donc les personnes noires font face à ça souvent sur une base quotidienne. C'est le travail de sensibilisation qu'il faut faire pour pouvoir justement faire réaliser aux gens que certaines situations, certains gestes sont racistes. Donc de vraiment changer cette mentalité et de changer certaines choses.
Expliquez-nous ces micro-agressions dont vous parlez, comment elles se manifestent.
Je vais aller dans la caricature pour donner mon exemple parce que il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de types de micro-agressions. Mais par exemple, lorsqu'on a une étudiant qui sort d'une grande université et que ça étonne, par exemple, certains collègues qu'il ait étudié dans tel domaine ou tel domaine parce qu'il est noir, ou que certaines personnes aient réussi certaines choses ou obtenu certains postes alors qu'ils sont noirs. Donc, ce genre de micro-agressions peuvent avoir lieu sur le milieu du travail parce que une personne noire n'aurait pas les qualifications pour le faire, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est des préjugés sous forme de micro-agression. Je rentre encore dans la caricature. Le nom, se moquer des noms, on n'est pas capable de le prononcer, ça vient de quelle partie du monde. Il y a souvent une facilité de dénigrer ou de rire de l'inconnu et de penser que certaines choses qu'on ne connaît pas ne sont pas nécessairement à la hauteur. Beaucoup de micro-agressions viennent de là. Dans les écoles aussi, tu as souvent des enfants qui vont se faire agresser, qui vont pas pouvoir, par exemple, avoir le rôle vedette parce qu'il est noir ou avoir certaines choses parce qu'il est noir ou certains groupes d'amis ils vont pas vouloir l'avoir dans le groupe parce qu'il est noir. Un autre type de micro-agression que je trouve même que ça devient de la macro-agression, pour ne pas dire excessivement grande. Je pense qu'on en a eu un exemple dans les dernières semaines qui n'était pas nécessairement adressé à une personne noire. Qu'on dénigre la personne à cause de ses origines, que ce soit dans le système de santé, que ce soit dans les écoles, que ce soit sur le milieu de travail ailleurs. Donc il y a différents aspects qui peuvent vraiment dénigrer les personnes issues des minorités, issues de la communauté noire. Un autre exemple de microagression que je voulais donner tout à l'heure, c'était la question de tu viens d'où? Donc beaucoup de personnes sont très offensées quand ils reçoivent cette question parce que on considère qu'au Canada, c'est une population très multiculturelle et qu'il y a des personnes de deuxième, troisième génération qui sont là depuis très longtemps, qui ne connaissent pas d'autres nations, d'autres patries que le Canada. Donc de se faire recevoir cette question tous les jours, donne un sentiment que tu n'appartiens pas ici, donc que tu n'es pas d'ici, que tu viens d'ailleurs. Ça peut être très blessant pour certaines personnes.
Le mot en haine qui est utilisé pour dénigrer les personnes de peau noire est au centre d'une controverse depuis quelques semaines. De votre enfance à maintenant, avez-vous été associé à ces mots racistes au Canada?
J'ai grandi ici au Québec, mais est-ce que moi, personnellement, j'ai été traité de ce mot-là? Pas à mes souvenirs, pas dans mon souvenir. Par contre, je peux le dire que mes frères l'ont été plus d'une fois. Et chaque fois, ça finissait en grosse bataille à l'école. C'est quelque chose qui arrive encore malheureusement fréquemment. Il y en a qui l'utilisent encore de manière persistante pour vraiment dénigrer les gens. C'est quelque chose qui n'a pas sa place, qui n'a pas sa place aujourd'hui. Donc, je pense que l'utilisation de ce mot, tout de manière péjorative, ne devrait pas être fait. Donc, oui. Oui, et j'ai beaucoup d'exemples de personnes autour de moi qui se sont fait traiter de ce mot-là pour, comme on dit, pour casser une conversation, pour dénigrer la personne, pour pouvoir lui donner une insulte entre guillemets suprême.
À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour changer les mentalités, en tout cas pour mettre un frein au racisme?
Pour moi, c'est un travail de longue haleine. Je pense pas qu'on change les mentalités du jour au lendemain. Donc, c'est pas en se réveillant demain, quel que soit ce qu'on fait, que ça va réellement changer les mentalités. Donc, c'est vraiment un travail de changement des mentalités fondamentales qu'on doit faire. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par l'éducation des jeunes. Donc, dans les écoles, par exemple, l'histoire des Noirs n'est pas expliquée dans le cursus scolaire, alors qu'il y a de grandes communautés noires qui ont eu des grandes contributions et il y a de cela longtemps ici au Canada. Donc, ça, c'est le genre de choses que c'est important de souligner dans les livres d'histoire, de pouvoir en parler dans les écoles pour que les élèves, les étudiants, des prochaines générations soient vraiment au courant de leur histoire. Et aussi, de pouvoir justement mieux comprendre l'autre. Il faut établir le dialogue, il faut que ce soit des dialogues sincères. Je dis pas que tout le monde doit être du même avis, c'est pas ça l'objectif, mais c'est vraiment de pouvoir discuter des choses et de pouvoir trouver des terrains d'entente. Il faut que les gens ont une plus grande ouverture d'esprit, parce que souvent c'est vraiment la méconnaissance de l'autre qui fait qu'on a des préjugés. On a tous des préjugés et c'est cette méconnaissance qu'il faut sur laquelle il faut travailler. Donc ne pas avoir peur d'aller découvrir l'autre, d'en découvrir plus, de participer à différentes activités de différentes communautés, donc pour pouvoir en découvrir toujours plus. Même nous entre communautés noires, donc je suis dans un pays, mais lorsque je participe à des activités d'une autre communauté, d'un autre pays, ça me fait toujours découvrir de nouvelles choses, de belles choses. On a tous à découvrir, à apprendre et à continuer à être curieux dans le monde d'aujourd'hui. Évidemment, je dois dire que le côté politique a un rôle aussi à jouer parce que c'est justement la mise en place de mesures concrètes qui vont permettre justement d'éradiquer le racisme, de pouvoir comprendre que c'est une tolérance zéro du racisme dans notre société qui fait que petit à petit, ça va s'estomper. C'est important que le politique, déjà au sein de son administration, mais aussi dans toutes les sphères de la communauté, de la société, puisse établir des règles et des signes clairs que nous sommes aujourd'hui en 2020 et qu'il y a des comportements qui sont inacceptables dans la société.
Au sein de votre organisation, qu'est-ce que vous avez œuvré pour lutter contre le racisme dont souffrent les Noirs et aussi les autres minorités?
On est en train de travailler sur un projet pour lequel l'idée, ce serait vraiment de voir et d'analyser le racisme auquel font face les jeunes dans les écoles. Donc, vraiment dans les écoles primaires, secondaires, faire une analyse de ça et puis voir des pistes de solutions à ce niveau-là. On le faisait déjà de manière un peu informelle avec les parents, à travers les différentes rencontres qu'on avait, à travers les différentes sessions d'information, etc. qu'on avait. Maintenant, essayer de formaliser un peu plus ça pour pouvoir justement recueillir des témoignages et mieux comprendre ce qui se passe réellement dans notre ville. Et finalement, l'autre chose sur laquelle on est en train de travailler depuis quelques mois, on a établi les liens avec le directeur de la police, du service de police de la ville de Gatineau pour travailler justement en commun, pour voir des solutions. Et ça date depuis la fin de l'année dernière, début de cette année, pour travailler ensemble et aussi voir des solutions aux différents problèmes que peuvent rencontrer notre communauté en termes de profilage, d'arrestation arbitraire, etc. Donc, on est vraiment en train de travailler à ce niveau-là aussi pour avoir des données probantes, mais aussi de voir comment on peut collaborer pour s'entraider, pour aider notre communauté.
L'année dernière, pendant le mois de février, c'est-à-dire le mois consacré à l'histoire des Noirs, vous aviez organisé une conférence sur le profilage racial. C'était en partenariat avec la police de Gatineau. Cette année, vous avez rencontré le chef de la police de Gatineau. Aujourd'hui, qu'en est-il? Quel progrès avez-vous réalisé?
La crise de la COVID a un peu ralenti nos activités et justement, ça, c'est un des dossiers qu'on a dû mettre sur la glace pendant les dernières semaines. Mais lors des discussions qu'on a eues avec le directeur de la police de la ville de Gatineau, justement, au début d'année, c'était très intéressant de voir la collaboration à laquelle il était prêt à travailler avec nous, de partage d'informations, savoir comment on pourrait travailler ensemble vraiment pour servir la communauté, renforcer notre communauté en fait, de vraiment pouvoir servir la communauté noire ici à Gatineau. Lorsqu'il nous a avoué que c'est vraiment difficile pour lui, par exemple parce qu'on lui a souligné le manque de représentation des communautés ethnoculturelles et noires dans son service, et il nous a avoué à quel point c'était difficile en fait justement d'obtenir des personnes, comme vous le savez, les policiers sortent de l'école de Nicolet. Donc, comment obtenir des personnes qui sortent de l'école venir s'intéresser à venir travailler à Gatineau? Les grandes villes comme Montréal vont très souvent obtenir le plus de personnes issues des communautés pour venir travailler pour eux. Donc, des régions un peu plus éloignées ont beaucoup de difficultés à pouvoir atteindre leur objectif de pouvoir recruter ces communautés-là. Donc, tant que nos jeunes ne vont pas graduer de cette école, on ne pourra pas aller voir à la police. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire ensemble, mais c'était intéressant justement d'avoir cette conversation pour réaliser ce type d'enjeux qu'eux y rencontrent. L'idée, c'est de continuer ce genre de conversation, mais aussi d'avoir des cafés citoyens ou d'autres activités durant lesquelles on pourrait faire un rapprochement avec la police pour mieux comprendre la situation de la police ici dans la ville de Gatineau et des communautés et comment nous, on peut jouer un rôle pour avoir un meilleur vivre ensemble.
Vous parliez du racisme au travail. Comment se manifeste le racisme dans les milieux professionnels et quel comportement adoptent les victimes pour y faire face?
Il se manifeste de plusieurs façons. On a eu plusieurs témoignages pour le milieu de travail. Plus il y a des personnes qui reçoivent des messages racistes encore, des commentaires racistes, des insultes racistes, que ce soit en réunion ou que ce soit lors d'activités, que ce soit des images qu'on leur envoie ou des blagues mal placées qui leur sont envoyées, donc à caractère raciste. Il y a aussi du racisme un peu plus discret, là où c'est plus difficile pour certaines personnes racisées de monter en grade, de monter les échelons dans certaines organisations. Donc à ce niveau-là, c'est souvent, comme on dit, un peu plus discret, donc un peu plus difficile de pointer du doigt. Mais c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui sont très difficiles pour certaines personnes. On constatera, par exemple, à la fonction publique, que beaucoup de personnes, des communautés noires sont dans les postes d'entrée, difficultés à monter les échelons. Est-ce que c'est tous du racisme? Probablement pas, mais je pense que il y a matière à analyser et à étudier encore plus en profondeur. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel la fonction publique travaille. C'est des cas, des situations qui arrivent fréquemment. Certaines personnes ont eu des bons soutiens de certains membres de leurs organisations, donc des hauts placés de certaines organisations qui ont très rapidement pris le dessus pour pouvoir justement remédier à la situation. Les situations diffèrent, donc c'est sûr qu'il y a des situations extrêmes là où on retrouve des employés qui se retrouvent justement en congé de maladie prolongée parce que justement, ambiance de travail insurmontable. Ça dépend vraiment du milieu, ça dépend vraiment du leadership aussi de l'organisation. Ce qui est important de noter aussi, c'est que dénoncer des situations de racisme en milieu de travail, c'est pas facile toujours, c'est pas facile pour les personnes, considérant que tu peux perdre ton emploi, que tu peux faire face à des représailles. Souvent, on va entendre des situations là où les gens vont aussi avoir peur de dénoncer, vont préférer rien dire, vont préférer laisser passer, parce qu'ils ont peur des conséquences qu'ils peuvent avoir. Et l'idée, nous, de notre côté, c'est vraiment d'accompagner les gens du mieux de notre connaissance, du mieux de notre pouvoir. Souvent, ne serait-ce que les échanges qu'il y a entre les membres de la communauté qui auraient vécu des situations semblables peut aider certaines personnes à le surmonter aussi. Donc, je pense que pouvoir connecter les gens peut contribuer à l'avancement de la cause.